La Voix des Bulles présente le One Eye Club, le podcast BD hebdomadaire bimensuel qui a deux têtes, zéro pied et pas de cerveau. Et pas de cerveau, clairement, c'est clair.
Ah, c'est ok. Ouais, comme d'hab.
Comme
d'hab.
Désolé.
Recoucou les gens.
Ouais, recoucou.
Re.
Non, pas coucou les gens.
Non, ah non, on n'a pas le droit.
Non, ça je peux pas.
Donc
du coup, on fait ça à deux
que,
ce soir.
Ah que coucou.
Ok, non plus. Allez, vous sortez tous.
Bonsoir à tous. Et donc ce soir, nous présentons l'émission Toujours sans pied.
L'émission bicéphale.
Une émission bicéphale, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de neurones, ça veut juste dire qu'il y a deux voix différentes.
Bien ça.
C'est pas mal. Hein.
Et donc on est avec qui?
Alors, ben, on est avec toi.
C'est, bah, je suis là.
Exact. Et puis il y a moi.
Ouais, c'est cool.
Et puis on a aussi lui à ma droite. Comment est-ce qu'il s'appelle le libraire?
Le grand barbu.
Guillaume. Voilà.
Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Guillaume.
C'est un mauvais Jacques Martin là que vous faites.
Ça m'était pas.
Et sur la droite de l'autre qui est en face, il y a un certain archiviste.
Hokahei.
Comment t'appelles-tu l'archiviste?
Hokahei.
Il a bugué. Jérôme. Jérôme qui donc, vous l'aurez compris, va nous parler de...
Hokahei.
Voilà, voilà. Et nous aurons également Le Royaume sans nom, tome 1, présenté par Thio.
Non, c'est pas la bonne émission. Ah si, c'est la bonne émission.
T'as raison.
Non, mais c'est rapport à l'autre.
Pas de cerveau, on est d'accord.
Alors, non, mais voilà, désolé.
Le troisième bouquin s'appellera Silence. Et enfin, le quatrième tome présenté par moi-même, Black Sad, tome 7, qui fait suite au tome 6.
Alors, le quatrième bouquin, pas le quatrième tome, parce que c'est le tome 7.
Oui, pardon, bah, c'est le tome...
Quatrième bouquin présenté dans l'émission, qui sera le Black Sad, tome 7. Ouais,
c'est clair, non?
C'est clair. Voilà,
limpide. Et un œil sûr... Paper Dungeons.
Alors, du coup, vous le voyez, franchement, là, on a commencé à arriver à de l'alcool de très mauvaise qualité, surtout qu'on était à l'eau ce soir.
Il n'y en a plus, en fait.
Et, donc, et donc, vraiment, je pense qu'il faut, quand même voilà, nous sponsoriser. Il y a des gens qui le font bien, mais malheureusement, ils sont un peu seuls. Et du coup, on est un peu sur de l'alcool frelaté, désormais.
On remercie Matt Deka, Chevonne, Warlove, Stéphane, Cobal et Boob qui font ce qu'ils peuvent. Mais clairement, là, ils vont avoir besoin d'aide.
C'est ça.
Et donc, ce premier album qui va nous être chroniqué par Jérôme, qui s'intitule...
Hokahei.
Voilà, voilà, pour la modique somme de 24,90€ chez Rue de Sèvres. Et scénario, dessin et couleur par un certain monsieur Neyef.
Lui-même.
De quoi que c'est-il que ça parle-t-il?
Hokahei. Désolé.
Le chrono tourne déjà.
Ouais, alors nous sommes en 1850 aux États-Unis. Et alors, déjà, disons-le tout de suite. Hokahei signifie en avant, en indien, Lakota.
Voilà. Ça, c'est précis, pointu, affûté.
Voilà, au moins ça, c'est fait. Et quelle est la ref? C'est le cri de guerre des Indiens Lakota, celui que scandait Crazy Horse en s'élançant dans les batailles en première ligne, avec comme signification en avant.
Ils font pas ça au Crazy Horse?
Ouais, ouais.
Voilà, ça c'est fait. Alors,
la porte est là-bas.
Fais attention,
elle grince
un peu.
Du coup, George est un jeune Indien qui est élevé par un pasteur. Tout de suite au début de l'album, on fait la rencontre d'un trio improbable. Un aventurier irlandais qui s'appelle Sully. No Moon, qui est une jeune femme indienne qui cache son visage derrière un foulard. Et Little Knife, un jeune guerrier froid. Ils vont froidement éliminer le pasteur et proposer à George de les suivre dans leur périple. D'abord contre l'avis de Little Knife, et puis bah, après, finalement, ça va devenir une sorte de grand frère, en fait, pour George. Donc ils vont parcourir le Wyoming... Et ça va être l'occasion pour George de découvrir sa culture, de découvrir la culture Lakota, puisque No Moon et Little Knife sont tous les deux Lakota. Et ce sont que des personnages qui sont à fleur de peau. Ce qui est intéressant dans cette... Enfin, il y a plusieurs choses qui sont assez intéressantes dans cet album. La première chose, on va le dire une fois et on le redira plus, mais c'est un label 619, c'est une très belle facture, un très bel album, belle reliure, dos toilé, voilà,
beau papier.
Beau papier, on est dans la grande tradition du label 619. Mais voilà, on peut le redire. Le style graphique quand même de Neyev qui est assez exceptionnel, je trouve, avec de très belles grandes planches, un dessin réaliste que je trouve très réussi et surtout une mise en couleur magnifique qui sublime les paysages, très lumineux, et on a vraiment vraiment plaisir à découvrir ces paysages du Wyoming qui sont assez exceptionnels, assez époustouflants, ces paysages des grandes plaines américaines en fait, avec les montagnes au loin, les bisons qui passent, enfin voilà. Mais le grand intérêt scénaristique de l'album se situe dans l'interaction entre la société des Blancs, qui est en train de coloniser ce Ouest sauvage et de restreindre en fait les Indiens dans des réserves, et la découverte par ce jeune Indien. Donc on découvre en même temps que lui en fait finalement une part de cette culture. Et cette forme d'acculturation qui va être d'enlever des enfants dans les réserves pour les faire élever par des bonnes familles blanches bien comme il faut. Alors, ça veut pas, c'est pas parce qu'ils sont élevés bien comme il faut dans la bonne société américaine qu'ils sont pas soumis au racisme, puisque quand même, rappelons que dans la société américaine, il y a un racisme endémique. On retrouve tous les principaux codes du western, que ce soit les Indiens, on en a bien parlé, la violence, les chasseurs de primes, les chevauchés, la traversée des grands espaces, et ces magnifiques paysages. Donc voilà, pour moi, c'est un très bel album. On en a fait vraiment des caisses autour de cet album l'année dernière, puisqu'il avait été présenté au moment de Angoulême 2023. Et c'était vraiment un peu l'album de l'année du label 619 et quasiment d'Angoulême l'année dernière, on en a vraiment beaucoup parlé. Moi je trouve que c'est un très bel album, c'est très clairement, je vais être sincère avec vous, j'hésite à mettre un coup de cœur. Voilà. J'hésite parce que le dessin est magnifique, le dessin est magnifique, l'histoire fonctionne très bien. Mais je reconnais qu'à titre personnel, quand les albums sont assez lents en termes de rythme, j'ai un peu du mal. Mais je comprends que ça fasse complètement partie du plaisir de la lecture de cet album. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis pour ceux qui l'ont lu.
Je vais donner la parole à Monsieur Guillaume qui va avoir la responsabilité peut-être d'affirmer, de confirmer ou de je ne sais quoi affirmer.
Pourquoi on
le coup de cœur. Non, commençons par toi.
Oui, je l'ai lu. J'ai mis du temps à le lire puisque je l'ai lu pour l'émission et ça fait donc plus d'un an qu'il est dans nos bacs. Donc j'ai mis du temps à le lire. Je me suis fait taper dessus régulièrement par mes collègues pour le lire parce qu'il est en coup de cœur chez nous à la librairie. Et je ne suis pas déçu du voyage, parce que c'est aussi ça, en fait, ce bouquin. C'est un voyage à travers les États-Unis de l'époque. C'est un voyage à travers la culture Lakota, avec tout ce que ça a de positif et de négatif. Les tentatives de mixage dégueulasses et au-delà de maladroits faits par les Blancs. Moi, je trouve que c'est une très très belle réussite. Il avait effectivement fait énormément parler de lui. Il me semble qu'il a raflé quelques prix. D'ailleurs, pour anecdote, je ne sais pas si c'est pas le premier ou un des premiers publiés par Rue de Sèvres. Donc, juste après le passage du label 619 de Hankam à Rue de Sèvres. Je vais pas en parler plus que toi, tu l'as déjà bien écrit. Moi, il m'a vraiment mis une bonne claque.
Et toi, tu mettrais un coup de cœur ou pas ?
Moi, je mettrais un coup de cœur parce que oui, c'est lent, mais justement, je trouve que ça va avec le récit, c'est-à-dire que tu es dans le rythme. Quand ça bouge, quand il y a de l'action, quand il y a une attaque, où c'est très bien rythmé, c'est très rapide. Il y a même des cases où tu es dans le désordre ambiant parce que tu n'arrives pas à tout de suite bien tout voir comme il faut au bon endroit. Et puis quand tu es dans le voyage, tu as effectivement cette lenteur, mais c'est cette lenteur qui va te permettre d'apprécier les paysages. Et puis de toute façon, t'es à dos de cheval, quoi. Tu vas pas à 200 à l'heure, quoi. Donc je trouve que justement, il est très bien rythmé. Et oui, moi, j'y mettrai un coup de cœur. Et de toute façon, comme je vous disais, on l'a déjà fait à la librairie.
Grosse pression, monsieur Mathieu.
Je pose une question. On va pas spoiler, mais vous êtes d'accord avec son choix à la fin?
Alors pas spoiler.
Juste vous me dites oui non, c'est tout.
C'est pas tu il y a pas à être d'accord ou pas en fait.
Je suis assez d'accord avec Guillaume en fait là-dessus.
C'est juste un ressenti, honnêtement.
Je pose une question.
Tu me poserais cette question un autre jour, je te ferai une autre réponse, mais sur le coup, oui. Et puis, c'est typiquement le genre de situation où tu peux t'imaginer tout un tas de choses et en fait, tu ne sais pas du tout comment tu réagirais.
Mais je ne dis pas toi, je te dis, est-ce que tu es d'accord avec lui? C'est tout, oui, non.
Avec lui, tu parles de Georges, là.
Oui. Mais tu ne peux pas dire, on ne parle pas de toi, forcément. Est-ce que tu te projettes à faire le même choix que lui?
Mais moi, je ne suis pas lui, je vous pose juste la question si vous êtes d'accord avec lui ou pas. Est-ce que vous trouvez que c'est la bonne fin ou pas?
Moi, oui, c'est typiquement un genre de question de joueurs de jeux vidéo qui peuvent avoir plusieurs fins.
Non, mais j'ai fait des jeux vidéo où justement je n'étais pas d'accord avec la fin.
Mais moi, je vais te dire, parce que je me suis posé la question. Moi, je ne ferais pas ce choix-là, mais parce que je n'ai pas les couilles de le faire.
Moi, je trouve que c'est une bonne fin.
Okay. Donc, du coup, pour en revenir au bouquin lui-même...
Si vous voulez comprendre l'espèce de moment cryptique de l'émission, lisez le bouquin.
Il faut le lire parce qu'effectivement, le rythme est exceptionnel. Parce que c'est une invitation au voyage et que tu fais le voyage tranquillement. Le bouquin est épais, il y a de la marge, il y a du poids. Ça te plairait, ça.
Mais c'est pour ça que j'ai été déçu.
Et vraiment, tu suis ça au long cours. Il y a d'autres chevals, tu pataclope. Et tout ce cheminement, c'est un chemin initiatique. Tu vis le truc avec le gamin qui va grandir, qui va évoluer, qui va comprendre des choses, qui va sortir de sa naïveté et s'éveiller à quelque chose de plus grand. Et effectivement, moi, je pense qu'il méritait en fait tout le barouf qu'il a eu il y a quelques temps.
Donc, pour info, il a eu le prix Libraire Canal BD 2023, le prix Libre à nous 2023, le prix BD Gestes Art 2022. Bref, il a eu quelques petites récompenses.
Et il a la plus belle récompense. Il a le coup de cœur du One Club.
Et là, on peut même applaudir. Bravo, messieurs.
Bravo.
Bravo, Kay. Bravo, Neyef.
Bon, alors maintenant que vous avez mis le coup de cœur, moi personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le bouquin. Je m'y suis pris à au moins 3 reprises et je n'ai pas réussi. Je pense simplement que ce n'était pas le bon moment pour moi pour lire ce bouquin-là. Donc, comme je l'ai à la maison de manière indéfinie, de toute façon, je vais faire comme je le sens.
Et comme tu ne l'as pas lu, de toute façon, tu ne peux pas dire
c'est
que...
C'est pour ça que voilà. Je ne peux pas ne pas mettre le coup de cœur.
Yes.
Et nous passons maintenant au royaume sans nom que Monsieur Thio va... nous détailler. C'est un bouquin aux éditions Glénat pour la modique somme de 15,50 €.
Non, vous ne le cherchez pas, monsieur. Le jour se lève et la reine est en train de discuter avec son fils sur une petite terrasse. Visiblement, la discussion n'est pas... on va dire, des plus cordiales entre la mère et le fils. Elle lui dit qu'il va peut-être falloir quand même qu'il devienne roi un jour, hein, parce que son père se fait vieux, qu'il devient un peu plus faible, que désormais il n'est plus prêt à faire la guerre tout le temps et qu'il est en train plutôt d'essayer de créer des alliances avec les seigneurs du Nord, avec le roi des ours des forêts, les seigneurs aigles des montagnes, et que malheureusement, les lions ne vont plus tout diriger si on commence à être copains avec tout le monde, alors que nous on doit juste tous les bouffer. Et donc, bon, ce pauvre prince donc, qui est un petit peu le faible. Justement, donc, la venue... excusez-moi.
Tu as perdu le slide.
J'ai perdu le reste aussi. Et donc justement, cette succession qui ne se fait toujours pas va nous permettre de rentrer un peu plus dans la vie de la cité avec les différents personnages qu'on va rencontrer. Donc d'ailleurs, le trésorier royal, qui lui aussi a ses petites affaires, ses petits trucs qu'il va essayer de mener, trouver quelques mercenaires, essayer de tuer un petit ambassadeur. Ça va failliter un petit peu. Voilà. Ce royaume sans nom, c'est quoi? Moi, j'ai trouvé que c'était une sorte de mélange. Alors, je vais peut-être faire crier les gens, mais un petit mélange entre les Cinq Terres. C'est ça, c'est les Cinq Terres, hein, le petit truc qu'on avait un peu lu, qui était un petit peu à la Game of Thrones. Mais,
oui.
Et je trouve qu'avec le côté qu'a choisi, du coup... Comme du coup, on n'a pas le bouquin, c'est chaud.
Anna, Redek ou...
Ouais, Anna.
Alors, Lou est à la couleur.
C'est ça. Et Anna est au scénario. Le côté, en fait, très... un peu théâtral de la façon de parler des personnages, je trouve qu'il y a un petit côté de Cap et de Croix. C'est personnel, comme avis.
C'est très personnel et pas forcément partagé.
Ah, mais j'ai dit que c'était très personnel. Donc je te demande pas de partager mon avis
personnel et pas partagé.
On taclera après. Hein. On va le laisser finir sa chronique. Voilà. Moi je te dis juste se faire hurler dans les oreilles.
Moi je te dis juste que justement comme c'est personnel, ça peut être mon avis et je préfère qu'on ne partage pas ce qui m'est personnel.
Parce que ton avis est personnel.
Tout à fait, c'est le mien. Oui, c'est, je le partage pas avec les gens et j'ai pas envie qu'ils s'introduisent dans mon avis. Tu vois, c'est... ça c'est un truc.
Sérieux, on a vraiment cette discussion là.
On a vraiment cette discussion.
C'est horrible.
Donc moi je trouve que
est en dépression.
Moi je trouve que c'est ce qui est excellent dans ce dans ce bouquin, c'est qu'on a le lion qui, en fait, pour le roi, pour crever, pour passer le pouvoir, en fait, il faut qu'il crève, il faut que son fils le bouffe. Du coup, son aîné a déjà essayé, donc là, c'est un one try. Hein. Si tu y arrives, c'est bien, tu deviens roi. Si tu n'y arrives pas, dans le meilleur des cas, tu cannes. Hein. Sinon, c'est pire, tu vas en tôle, comme ça, du coup, tu peux essayer de t'enfuir pour faire un deuxième essai. Si ton frère ne le fait pas. Mais bon, comme son frère est une sorte de gros faiblard et que tout le monde considère qu'il c'est un moins que rien parce qu'en fait, il aime son père et qu'il ne veut pas bouffer son père, grosso modo. Il ne veut pas tuer le père, au sens littéral du terme. En fait, il n'a pas d'ambition royale. Donc, il a juste son pote Ménestrel qui, lui, est en fait juste un gros pervers sexuel, qui va lui permettre un petit peu d'essayer de s'évader, mais on va très vite retomber dans tout le bouquin sur des assassinats, des traîtrises, des complots, des ennemis, des alliances qui vont être plutôt fragiles, qui vont lui permettre d'essayer de nous montrer un petit peu une géopolitique intéressante sur ce royaume sans nom, parce que forcément, aucun personnage n'a de nom, et on sait juste que c'est le lion, la lionne, le roi, le prince, c'est juste les titres en fait, qui nous permettent de définir qui sont les personnages. Moi, j'ai trouvé que les dialogues étaient top. Le dessin de Redek est, je trouve, très expressif, que vraiment nos personnages animaux sont presque un peu à la mode de Disney, assez ronds, mais qui sont très expressifs. Les décors spectaculaires, j'étais presque à deux doigts de finir pile poil dans les temps. Mais que la gestion.
Deux doigts, c'est à côté.
Ouais, gestion de la lumière, c'était par Lou, vraiment, c'était vraiment soigné et que le dessin m'avait quand même pas mal plu. donc, moi, du coup, Le Royaume sans nom, tome 1, j'ai bien aimé. J'attends quand même la suite pour savoir exactement ce que va devenir notre petit lionceau faiblard. Maintenant, allez-y, faites-vous plaisir. Je sens donc que je vais me faire dégoupiller.
Alors, on va donner cette fois-ci la parole à Guillaume pour dégoupiller.
Allez, vas-y, tu prêt?
Je vais pas dégoupiller trop fort. J'attends de lire le 2 là qu'on a reçu il y a pas longtemps pour me faire une autre opinion, mais pour l'instant je reste
moyen. même pas plus moins, c'est moyen.
C'est je trouve que ça le cul un peu entre deux chaises en fait. On n'est pas vraiment dans l'action. On essaie d'être dans l'intrigue, mais je trouve que ça manque d'ampleur pour faire de l'intrigue. Je trouve qu'il manque des choses, en fait. Tu vois, t'as parlé des Cinq Terres. Et évidemment que quand tu vois un bouquin avec des problèmes de succession au trône, avec des têtes d'animaux, évidemment que tu vas le comparer aux Cinq Terres. C'est pas possible de faire autrement, vu le succès que ça a remporté. Et je trouve qu'en termes de jeu d'intrigue et de politique, il est un peu faible. Il manque des trucs, c'est un peu facile. Le dessin est très beau et très bien réussi, mais je suis pas exactement convaincu avec ce thème. Je sais pas, tu vois, je trouve que justement ça fait un peu trop Disney, ça fait un peu trop gentil. Et pourtant c'est vachement bien, hein, mais mais je trouve que ça colle pas tout à fait au truc. C'est vrai que les dialogues fonctionnent bien, la façon de parler est chouette, elle est plaisante, elle change, elle est différente. De là à le comparer à Erol, j'y serais pas allé perso. mais je suis pas complètement à 100% objectif non plus, hein, je l'avoue. Donc c'est pas que j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça bien, j'ai passé un bon moment, mais je trouve qu'il manque pas mal de choses.
Après, la comparaison avec les 5 Terres, elle est pas évidente, parce qu'aujourd'hui, les 5 Terres...
Elle est pas juste.
Non, mais surtout, c'est qu'il y a 8 tomes. Si on reprend juste les 5 Terres, tu reprends le premier tome, je suis pas certain qu'on dirait de suite que c'était aussi exceptionnel que...
Je suis désolé, moi, perso, à la fin des 5 Terres premier tome, j'étais waouh.
Là, c'est pas une réaction de Pyrrhic, hein, par exemple. À la fin d'un premier tome, c'est attendre le deuxième.
Non, on attend la fin du cycle, s'il te plaît. Si t'as pas 12 tomes et que les 12 tomes sont vraiment exceptionnels, il n'y a pas de coup de cœur. C'est comme ça.
Non, honnêtement, j'avais une impression beaucoup plus forte que ça à la fin du premier tome des 5 Terres.
Alors, petite question, la couverture est assez théâtrale. Ça ne s'appelle pas tome 1, ça s'appelle acte 1. Tu me parles de dialogue de Cap et de Croc. Est-ce que cet aspect théâtral qui est un petit peu revendiqué en couverture, est-ce qu'on le ressent dans la mise en scène à l'intérieur?
Pas tant que ça. Moi, je dirais, mais après...
Eh ben voilà, ça c'est fait.
Tu l'as lu ou pas, toi?
Ben non, justement. Ah. C'est pour ça que je me permets de poser cette question.
Il est dans son étagère.
Il est dans la mauvaise étagère.
Tu sais, il est par terre, en fait, dans la liste de bouquins qu'il doit...
Sous le papier toilette.
J'avais pas voulu préciser ça, mais après, bon, si tu veux y aller, hein, c'est chez toi. Non, hein, c'est pas
pour
chez
la
moi.
Blague. Jérôme.
Dans le dossier de presse, il parle pas du tout de Molière ou de...
Shakespeare.
Alors si, justement.
Ah, ben voilà.
Il ne parle pas de Molière ou de Cyrano de Bergerac, j'allais dire, mais il parle carrément de Shakespeare, puisqu'en fait, ils disent Hamlet au royaume des lions ou quelque chose comme ça.
Bah, la couverture, c'est ce qu'elle revendique. Hein.
Oui, alors c'est revendiqué aussi par l'éditeur, c'est revendiqué, voilà. Bon, je pense qu'il faudrait être un connaisseur d'Hamlet, ce qui n'est pas mon cas pour véritablement faire la comparaison. Moi, je trouve que l'anthropomorphisme est très à la mode depuis quelques années. On parle de quoi, là, comme album, ce soir?
Le Royaume sans nom.
Et puis
Black Et Sad. Puis, on parle de Black Sad.
On va parler de Black Sad. Donc,
il y a des chevaux dans Hawkeye.
je compare pas du tout.
Ils sont pas anthropomorphisés.
Ils sont pas anthropomorphisés. Ils parlent pas.
Je compare pas du tout le Royaume sans nom à Black Sad parce que on n'est pas du tout au même niveau. Voilà. Mais par contre, en termes de style de dessin, honnêtement, il y a quand même quelque chose. Et effectivement, quand vous parliez de Disney, oui, il y a quand même quelque chose. On est sur un anthropomorphisme assez rond, assez classique. Mais voilà, c'est très à la mode l'anthropomorphisme. Donc après, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Moi, je trouve que ça donne une lisibilité au texte qui est assez évidente. Moi, je trouverais ça assez original d'avoir non pas des lions carnivores et dominants et des serpents machiavéliques et assassins, mais de changer un petit peu les types. Mais bon, du coup, ça perturberait beaucoup le lectorat.
Et puis c'est un peu l'intérêt premier de faire de l'anthropomorphisme, en fait.
C'est ça.
C'est de se passer de toute cette phase-là.
C'est ça. Exactement.
Si en plus on brouille les cartes, ça peut être drôle, mais ça sert moins le propos.
C'est ça. Mais moi, je trouverais ça assez rigolo. Donc voilà. Donc j'ai passé un bon moment. J'attends le tome 2 avec une certaine impatience parce que malgré tout, je trouve que le tome 1 était plaisant à lire. Donc je lirai avec plaisir le tome 2. Et j'ai envie aussi de voir ce qui devient ce lion-là qui est très attachant. C'est pas l'album de l'année, mais il y a un potentiel.
Le Royaume sans nom chez Glénat, acte 1.
Ah, il est là!
Voilà le tome 2.
Il y a vraiment Hamlet, du coup.
On a vraiment le tome 2. Et voilà, ouais, c'est exactement
ça. Et Shere Khan aussi.
Le pire, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que sur le premier tome, il nous manque que le crâne.
C'est carrément Hamlet, pour le coup.
Du lion. Alors là, la main est ensanglantée, mais il manquait que le crâne pour nous faire Hamlet. Bon, ils l'ont fait sur le tome 2. Clairement, on pousse le curseur encore un petit peu plus loin.
Non, mais au-delà d'Hamlet, sérieux, c'est Shere Khan.
Oui, oui.
Ah oui, là, oui, graphiquement, oui.
Ah oui, c'est Shere Khan, oui.
Graphiquement, on est à fond dessus. Donc j'ai failli faire la phrase de sortie pour l'album, mais on l'a.
Mais non, on la fera après. On y va.
On passe à l'album suivant. Nous allons parler de Silence, ou plutôt Guillaume va nous parler de Silence.
Eh bien, ça va être très facile puisque Silence. Suivant.
Pour la modique somme de 7,70€ chez Cana par Johan Vornier.
Le tome, c'est il y en ça. A deux.
Il y en a deux, oui, parce que normalement je vous avais filé les deux pour lire les deux.
Oui. Oui.
Ah oui, pardon.
C'est le principe quand tu nous en donnes deux, c'est pour lire les deux.
Non, ben, je sais pas, des fois vous lisez pas du tout. Donc.
C'est pas vrai.
Donc,
on lit toujours.
Silence, c'est une. C'est un manga franco-français. Qui est édité par Kana, donc c'est plutôt cool. Voilà, dans ce monde-là, la nuit est venue, une forme d'apocalypse, le genre humain s'est retranché là où il a pu pour survivre, parce qu'avec la nuit vient les créatures démoniaques, des grosses créatures très dangereuses qui ont tendance à bouffer un peu tout ce qui passe, et principalement les humains. Donc l'humanité est en mode survie et on commence dans une église,
oui.
Où une petite communauté arrive à survivre depuis plusieurs années et donc notre héros l'âme, j'ai vérifié les noms avant de hein, l'âme est un jeune homme qui doit avoir la quinzaine, qui est plein d'énergie, qui s'occupe beaucoup des enfants de la communauté en leur racontant des histoires pour les faire rêver, entre autres. Et avec cette particularité que le bruit attirant les bêtes et les créatures démoniaques, ils font tout en langage des signes et sans bruit, d'où le titre. Et donc là, il vient de finir son histoire aux enfants pour les endormir. Gris et son groupe de chasseurs, si je me souviens bien, où ils ont donné un autre nom, c'est pas très grave, rentrent au bercail, ils ont encore trouvé des choses, et l'âme rêve d'une chose, c'est de partir en exploration avec eux, parce que c'est trop classe, hein, comme tous les jeunes ados, ils rêvent d'aventure. Et donc, on va suivre les péripéties de tout ce petit monde à travers leurs explorations. Malheureusement, pour l'âme, la première ne va pas très bien se passer. Hein ? Il va se retrouver seul dehors, il va rencontrer une autre personne, il va être infecté par une créature, et de là, va commencer vraiment le récit. Il va falloir bouger, parce que ils ne peuvent pas rester ici. De toute façon, il n'y a plus de ressources. Et la personne que l'âme a rencontrée lui explique qu'il y a une ville plus loin avec beaucoup plus de ressources et beaucoup plus de personnes qui résistent mieux aux créatures démoniaques. Et donc voilà, tout ce petit monde parti en périple pour rejoindre cette cité. Deux premiers tomes plutôt bien réussis. Je suis à la librairie en général, on est un peu tombé en amour devant cette réalisation française. Un dessin, on va dire plutôt classique pour du manga, mais qui fonctionne très très bien. On est dans du shonen relativement classique sur les fondamentaux, avec quand même une petite originalité au niveau de l'ambiance, c'est-à-dire qu'on va avoir ce côté assez pesant, assez sombre,
inquiétant,
merci, puisque y a toujours la peur d'être entendu, la peur d'être attrapé et d'être mangé par une créature, et pour autant ça reste très shonen parce que c'est pas ultra violent, c'est pas gore, des personnages plutôt attachants et on a hâte de voir ce qui va leur arriver.
Histoire de varier les plaisirs, c'est moi qui vais donner mon avis en premier.
Parce que tu l'as vraiment lu.
Oui, j'ai lu les deux tomes et j'ai bien aimé. Ouais, c'est comme quoi tout arrive.
Putain, la vache, c'est la soirée d'or quand même.
Bah, c'est énorme. Ouais, donc j'ai bien aimé, le dessin.
Cœur de l'archiviste,
contrairement
t'as lu des mangas.
Souvent, les.
Evelyne a parlé.
Oh putain, la vache.
Les combats, les phases de combat sont lisibles. j'ai bien aimé le principe. On ne traîne pas sur des phases ou des discussions interminables au sein de la communauté pour savoir ce que l'on va faire ou ce que l'on ne va pas faire. Bon, bref, la décision finale est prise. on y va ou on n'y va pas. Mais au moins, la décision finale est prise et on ne tergiverse pas pendant des pages pour rien.
Alors, la décision, il n'y a pas eu vraiment de décision.
C'est un dictateur quand même qui prend la décision.
Voilà, la décision, c'est un petit peu, excuse-moi, le dictateur qui est arrivé qui a dit « Les gars, vous savez quoi? Vous n'avez pas à vous décider? On se casse. »
Mais justement, c'est ça.
Et c'est pire que ça. Il dit « De toute façon, les gars, c'est pas que vous arrivez ou vous n'arrivez pas à vous décider. De toute façon, j'ai tout brûlé. »
Ah oui, non, mais.
Non, mais c'est parce que je voulais pas le dire, c'est pour ça. Oui, il a tout cramé, il a dit maintenant, il n'y a plus rien à sauver.
Mais sinon,
donc
vous pouvez spoiler aussi.
Ah, mais c'est lui qui a commencé.
Bref, toujours est-il que j'ai bien aimé le principe du silence. Alors en plus, c'est une thématique qui a été un petit peu à la mode avec plusieurs films ou séries sur Netflix, etc. Et c'est une bonne idée à mon sens, qui est ici reprise de façon différente. Personnellement, ça m'a fait penser par certains aspects à Dark Earth. Avec l'obscur qui est effectivement très, très dangereux, des créatures très dangereuses dans l'obscur, les notions de cité-état qui, elles, vivent au-dessus de la problématique, ont de la lumière et donc ont de, potentiellement de la nourriture, donc sur le principe des stalites de Dark Earth. Donc voilà, moi j'y ai trouvé mon compte, d'autant plus que nos petits ouaves d'à côté sont en train de nous montrer les couvertures sans jaquette où il y a des dessins d'enfants.
Les dessins des enfants. Des
parce qu'il faut toujours enlever les jaquettes des mangas.
Ah, absolument. Donc voilà. Vos avis, chers amis, sur ce silence, monsieur Thio.
Bah écoute, moi j'étais bien... Ouais, la régalade, vraiment, écoute...
La régalade.
Ah, vraiment la régalade. Je me suis régalé.
La vérité.
Non, pas la vérité, ça c'est pas moi. Mais la régalade, ouais, je me suis régalé.
Si vous n'avez pas compris qu'on était basé dans le sud, les gars.
C'est, ouais, pour la régalade, c'est sûr. Pour la vérité, ça c'est moins... C'est peut-être pas obligé.
C'est le sud aussi, hein, mais pas le même.
Pas le même. Vraiment une histoire trop cool, quoi. C'est sympa, t'as un peu d'humour, tu rigoles. Ouais. T'as des petites bastons.
Les archétypes de personnages sont sympas,
ils font plein de conneries aussi. Ils sont un peu débiles des fois. Donc, ouais. Non, il y a tout ce qu'il faut pour faire une bonne histoire. Vraiment un bon manga. Merci. Merci, maître
avec
BD.
Avec plaisir.
C'est un bon manga et c'est pas écrit trop petit.
Alors, okay. Il faudrait des mangas grand format désormais.
On va choisir les mangas en fonction de la taille des polices.
Exactement.
Ils font pas les versions pour aveugles, un peu agrandies
En braille.
Je les ai en braille, ouais.
Alors le problème, c'est le dessin, c'est que c'est plus chaud.
Plus tout en silence, en braille, ça va commencer à être compliqué, les gars. Monsieur Jérôme, pas écrit en petit.
Voilà, non, mais tout pareil. Après, tu parlais des films sur cette thématique du silence par rapport aux monstres. On n'est quand même pas non plus sur le même niveau de tension. Hein. Pas du tout. Hein.
Bien sûr. Bah, on reste avec plein de moments de blague. Hein.
Voilà, plein de moments de blague, quelque chose de beaucoup plus grand public. Voilà, mais un bon moment et on a envie de suivre leurs aventures.
Très bien. Il a réussi à nous vendre un manga. Je suis sûr qu'on va l'acheter. Il y en a un de nous qui va suivre l'aventure. Là.
Et donc, c'était Silence chez Kana pour la modique somme de 7,70€ par Johan Vornière.
Le tome 3 est sorti ?
Non, pas encore.
Et donc, nous allons parler maintenant de Black Sad, tome 7, donc toujours par Canales au scénario et Guarnido au dessin et à la couleur. Ce tome 7 fait suite au tome 6. C'est vraiment en deux tomes. Eh oui, ce sont deux tomes qui sont reliés. Puisque le
D'ailleurs,
tome 6...
ils sont baptisés part 1 et 2.
Oui.
Et pour la blague, dans la base de données, ils nous ont mis Black Sad, tome 6, partie 2.
Ah, ça, c'est pas très pratique.
Voilà, donc ils ont fini par corriger, mais au début, c'était assez fun.
C'est pas très pratique. Alors, bah, dans le tome 6, justement, nous suivions toujours John Black Sad, qui était à la recherche d'un assassin. Ça commence par une histoire de pièce de théâtre dans Central Park, enfin, en tout cas, dans un parc de New York. Pièce de théâtre qui est arrêtée parce qu'elle ne répond pas à la loi, etc. Et donc, la responsable de ce théâtre se retrouvera décédé dans le tome suivant. Weekly était lui aussi impliqué dans le premier tome, dans le tome 6, en lien avec une certaine Rachel Zuko, qui était elle-même journaliste de son état et que l'on va retrouver également dans le tome 7. Et le représentant du syndicat également, le président du syndicat, Kenneth Clark, qui va se retrouver zigouillé, et donc sur lequel il va y avoir donc enquête. Donc Iris Allen pour la partie théâtre, Kenneth Clark pour le syndicat des travailleurs, Weekly, le comparse de Black Sad, qui va être bien malmené dans ces deux tomes. Bref, nous continuons la traque. Donc, on se retrouve sur le chantier de construction du futur théâtre qui est baptisé Iris Allen suite au décès de cette jeune dame. Les ouvriers font une découverte macabre, ils déterrent les ossements d'un homme. Au même moment, au commissariat de police, Weekly, lui, est accusé à tort par un faux témoin de l'assassinat d'Iris Allen. Le commissaire demande à son lieutenant de mener une enquête parce qu'il semble comme, ben, il se doute bien qu'il y a une embrouille là en dessous. Le vrai coupable semble être un espèce d'oiseau, on le sait très très rapidement et on cherche des indices pour arriver à le confondre. On retrouve Solomon, le grand magnat de la finance et de la construction qui a de grandes ambitions politiques, qui observe avec admiration son chantier colossal, un futur pont suspendu sur la ville en compagnie de son architecte. Black Sad, lui, eh bien, cherche à mettre la main sur Rachel, la seule capable de donner un alibi à Weekly. Il se rend donc dans l'école de danse d'Iris Allen afin de demander à Alma si elle a le moyen de la trouver. Black Sad pousse ses recherches jusque chez Iris, lieu du crime. Et là, sur place, il retrouve le lieutenant, mais il voulait vérifier si les policiers avaient bien fait leur métier. Bien évidemment, Black Sad est plus fort que le simple policier moyen. Il retrouve donc une plume par terre qu'il confie au Shelby après une altercation un petit peu musclée quand même entre les deux garçons. Les enquêteurs donc vont devoir confirmer ou infirmer s'il s'agit bien de la plume d'un goéland. Et John, lui, de son côté, va poursuivre les recherches. On a donc le dénouement dans ce septième tome de cette histoire en deux parties. Une affaire complexe avec beaucoup de rebondissements, beaucoup d'histoires à tiroir, beaucoup d'implications politiques. Black Sad donc a forte affaire. Le coupable est au cœur d'affaires de meurtre sur plusieurs années, sur même plusieurs décennies peut-être. Un maître bâtisseur, donc Solomon, avec un ego surdimensionné, qui est quand même un ennemi de taille. Pour Black Sad. Il a une forte affaire, Black Sad, pour arriver à le confondre. Weekly, lui, eh bien, pour une fois, ne peut pas l'aider. Il est piégé, accusé à tort, et il va falloir essayer de le disculper. Bref, Canales construit un scénario assez alambiqué, entremêlé de personnages assez nombreux et au caractère fort, parfois souvent corrompu. L'enquête se complique, mais bien évidemment, Black Sad ne lâche rien. Le dénouement reste relativement surprenant par certains points, un peu plus convenu par d'autres, on n'en dira pas plus. Au dessin, Guarnido, c'est la régalade, comme toujours. Un graphisme zoomorphique optimal, comme toujours. Une atmosphère vraiment prégnante, de superbes décors, des couleurs directes, et voilà, les expressions faciales sont toujours merveilleuses. Bref, un beau récit, une histoire qui se termine bien, pas bien, ça ce sera à vous de voir, en tout cas assez riche. Messieurs, votre avis, Mister Thio.
J'étais un petit peu moins ambiancé par ce Black Sad, enfin ces deux tomes, parce que je vais faire du coup 6-7, parce que justement c'était un peu long. C'est à ce que j'ai trouvé un peu dommage. Et pourtant, voilà, Arnido, je peux rester sur ses dessins, je peux les regarder comme ça. Je fais... Ça me fait des trucs, tu vois. Et là.
Comment tu fais ?
Bah, je fais pas de longtemps.
Non, parce qu'il a envie de dire enculé, qu'est-ce que tu dessines bien, salopard.
Non, mais surtout après, non, surtout quand tu sais que le mec, en plus, il se torture. Tu vois, parce qu'il a dit putain, sur cette image-là, le papier peint, j'ai testé en rouge. Je vais refaire la scène, mais je vais mettre en vert. Parce que je pense que ce sera. Et là, tu fais mais. T'es un malade. Voilà.
Il faut avoir le temps de le faire.
C'est ça. Bon, donc du coup, c'est quand tu lis un peu, voilà, justement, les aquarelles de Guarnido quand il t'en parle sur les bouquins. C'est quoi, c'était un double bouquin qui était sorti sur les 3 ou 4 premiers tomes, ça, les aquarelles de Guarnido.
Oui, les 4 premiers, je crois.
Ouais, et c'était vraiment, enfin, c'est à lire. Vraiment, si vous aimez le dessin, lisez-le, c'est le mec, il est ouf. Mais je trouve que voilà, ce Black Sad-là, le 6 et 7, ça fait un peu long. Peut-être que l'histoire aurait mérité pour être un peu plus dynamique et avec un rythme un peu plus soutenu. Peut-être qu'un seul tome, mais en même temps, vu le scénario, il fallait qu'on ait peut-être un peu de temps parce que sinon, on aurait été là, on a dit oh les gars, détendez-vous, quoi, il y a trop d'action. Voilà, il faut ménager la chèvre et le chou. Et bon, malheureusement, j'étais un peu moins emballé par ces deux tomes-là, en tout cas, que par les précédents. Même l'album sur les beatniks, qui était quand même peut-être le moins bon des 5 premiers, m'avait quand même plus emballé.
Mister J.
Que moi, je reste un fan inconditionnel des 4 premiers tomes, mais parce qu'ils ont une trame historique qu'on retrouve moins. Alors, dans le 5e, on la retrouve, mais elle me parle moins parce que c'est axé sur la culture beatnik, et effectivement, moi, je suis moins sensible à ça. En tout cas, là, je la retrouve moins dans les tomes 6 et 7. Après, ça reste un moment plaisant, une enquête policière agréable à lire, avec un peu des rebondissements, sans être non plus des trucs absolument démentiels. Donc, ça reste un bon album, un peu en dessous des Black Sad de l'âge d'or.
Ouais, je vous rejoins là-dessus. Ça a été un petit peu long. Peut-être qu'il aurait fallu sortir les deux albums ensemble, d'un bloc, pour rester dans une forme de dynamique.
Il faut les faire quand même.
Bien sûr. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le laps de temps conséquent qu'il y avait, et encore qu'il y a eu des laps de temps beaucoup plus longs parfois long. Entre certains tomes, le laps de temps entre les deux tomes pêche. Voilà. Il ne joue clairement pas en sa faveur. Et je vous rejoins sur le fait que c'est vraisemblablement pas le meilleur Black Sad, mais voilà, ils se sont risqués à un scénario plus alambiqué qui méritait un peu plus de temps, un peu plus de pages, et c'était un essai que je trouve pas totalement transformé, pas totalement échoué, mais effectivement c'est pas le meilleur de la série. Monsieur Guillaume, tu l'as pas lu toi?
Non.
Bon, tant pis pour toi. C'était donc Black Sad, tome 7, toujours chez Dargo, pour 16,95.
Si la prochaine fois il recommence à faire un diptyque partie 1, partie 2, on attendra que la partie 2 soit sortie, on connaîtra les deux d'un coup.
Bah oui, ouais. Pour le coup de cœur, le truc c'est que tu sais quasiment qu'à ce moment-là, tu seras peut-être à la retraite quand même.
Voilà. C'est pas impossible.
On verra ça.
Un œil sur
Paper Dungeons.
Yeah.
Monsieur Guillaume va donc nous parler d'un... Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas une bande dessinée, ça?
Alors, donc, du coup, nous allons faire une partie en direct, justement, sur Twitch, là, ce soir.
Voilà, donc, les Twitchers, si nous en voulez, avons pour une petite trentaine de minutes.
Allez, on en a juste pour 2 heures, les gars, c'est bon.
Alors,
c'est long comme jeu?
Non, pas du tout.
En théorie, non, mais pas avec nous.
C'est un jeu prévu, effectivement, pour y avoir joué déjà quelques fois avec mon fils, puis ma belle-sœur et ma femme, et tout seul aussi. Le jeu est prévu pour être joué de 1 à 8.
Okay. De 1 à 8,
oui,
c'est cool.
On peut jouer en solo. Bon, en fait, vous avez dedans le matériel est composé donc d'un carnet de fiches. Sur les fiches, vous avez votre donjon et de quoi noter tout ce que vous récoltez dans le donjon au fur et à mesure.
Il y a de la feuille, hein, petit sac.
Il y en a une centaine. Je conseille vivement de faire des photocopies arrivées à un moment donné.
Tu veux bien les compter, s'il te plaît?
Et donc, voilà, le matos, c'est l'affiche, 6 dés, des crayons,
188,
des cartes et des cartes. La prise en main est relativement simple. À la première lecture des règles, j'ai eu un peu peur en me disant que ça va peut-être être plus compliqué que ce que je croyais. C'est pour ça que j'ai fait une partie solo très rapidement. Et en vrai, ça s'intègre très, très, très facilement. Donc, vous avez un premier set de cartes de grand format. Vous avez les cartes donjon, dont vous en tirez une au hasard au début, qui va vous définir le donjon spécifique que vous jouez, et notamment les monstres, elles sont derrière, et notamment les monstres que vous allez rencontrer dans ce donjon.
Mmh. Frankin le Magnifique, c'est un riche gnome.
Voilà, il y a trois boss. Vous avez le boss 1, le boss 2, le boss 3. Et puis, vous partez à l'aventure avec votre groupe d'aventuriers, donc au hasard, hein, très classique, un guerrier, un voleur, un prêtre et un mage. Et chaque joueur a ça. Pardon ?
Un ranger ou un ménestrel ?
Non, chaque joueur a l'équipe de base. Et donc, vous lancez les dés. La mécanique est très simple. Vous avez, on va découper ça, disons, en trois phases qui sont découpées en trois rounds. Vous rencontrez le premier boss, trois nouvelles phases, trois rounds de trois rounds, le deuxième boss, et puis deux phases de trois rounds pour le troisième boss. Le but du jeu est de faire le maximum de points possible, et celui qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie a gagné.
Yes,
et comment on gagne des points ? En gagnant des niveaux, en récoltant des gemmes, en tuant des monstres, en tuant les boss, etc. etc. Et donc, à chaque fois, on lance 6 dés. Et puis, les dés vont nous permettre de faire 3 actions. Et les dés sont disponibles pour tout le monde. Si quelqu'un utilise un dé, les autres peuvent l'utiliser aussi. Mais on peut utiliser qu'une seule fois le même dé par tour. Individuellement, j'entends. Ce que j'ai cru être un point faible au début ne l'est pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a finalement peu d'interaction entre les joueurs, parce que chacun explore le donjon dans son coin. La seule chose, c'est que on va pas pouvoir. Enfin, quand quelqu'un prend une gemme, ben, si personne ne la prend au même tour, ben, pour... elle est plus disponible pour les autres après. Mais par exemple, il y a des sbires qu'on peut rencontrer dans le donjon. Chacun défonce ses sbires de son côté. Enfin, voilà. Donc, en fait, ça se joue chacun dans son coin. Et au début, c'est pour ça que je l'ai très vite essayé avec mon fils et avec ma belle-sœur ensuite et ma femme. En solo, ça passe bien. Et puis je me suis dit, mais si chacun joue dans son coin sans réelle interaction avec les autres, est-ce que c'est fun? Et en fait, oui. Parce qu'on se laisse facilement, enfin pour peu d'apprécier ce genre de jeu, bien sûr, on se laisse facilement prendre au fait de trouver et chercher les meilleures combinaisons possibles pour optimiser le mieux possible son exploration de donjon, pour avoir le meilleur niveau possible, pour défoncer le monstre du mieux possible, pour avoir le plus de points possible. Donc, ça a un côté très tactique, très puzzle, très on s'amuse à.
Enfin, c'est très. Ça fait quand même très jeu de nain quand même.
Ouais, c'est un truc de gros build, t'optimises à mort de partout. C'est finalement très fun. Et même si on se tire pas dans les pattes pendant la partie, eh ben, on est quand même bien content à la fin quand on a 96 points et le voisin de droite, 94.
Ça sent le vécu.
Oui, c'était le week-end dernier à Pâques.
Bon, est-ce que la promesse de faire des parties de 30 minutes s'est tenue?
Alors, la première, non, parce qu'on relit les règles en même temps, on s'habitue, etc. Mais en fait, très rapidement, oui. Je vous dis, en fait, finalement, on lit les règles une fois, on l'essaye, et puis ça s'intègre très facilement, et après, ça va très très vite. Même quand on joue pour la première fois, avec mon fils la première fois, puis avec ma belle-sœur la deuxième fois, au bout de deux ou trois lancers de dés, enfin, en gros, après le premier boss, on a compris la mécanique et on avance, quoi. Donc, c'est vraiment des parties rapides, et c'est assez plaisant, du coup. C'est bien pour occuper un petit moment de libre. Et puis oui, je vois que tu as vu, il y a aussi une extension avec des nouvelles quêtes. Donc je suppose des nouvelles cartes donjon, parce que je l'ai à la librairie aussi, mais je ne l'ai pas ouvert.
Et il y a des ménestrels ou pas dedans?
Je ne sais pas.
Alors dans l'extension qui s'appelle SideQuest, il y a de nouveaux éléments pour augmenter la difficulté du jeu pour l'essentiel, de nouvelles fiches joueurs et aussi des défis plus coriaces. Donc voilà, on est sur une extension qui monte visiblement le niveau de difficulté d'un cran. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'est apparu comme étant peut-être un point faible du jeu, le fait que ce soit peut-être trop facile de réussir les donjons?
Non, parce que j'ai pas eu l'impression que c'était le but du jeu de rendre le donjon infaisable. Je trouve que le but du jeu, c'est vraiment juste d'arriver à bien optimiser, s'amuser à trouver la bonne combinaison, à développer le bon instrument au bon moment pour maximiser au maximum tes points, quoi. Après oui, j'entends que ça peut effectivement, au bout d'une dizaine ou une quinzaine de parties, ça peut peut-être être un peu rébarbatif, et peut-être qu'effectivement le side quest a un intérêt à ce moment-là. Mais moi, ce qui m'a plu vraiment, c'est ça, c'est le côté simple, rapide et facile. Donc, ça m'a pas gêné que ce soit faisable et non pas infaisable.
Bien, c'était donc Paper Dungeons, un jeu qui est bien.
Le doigt a glissé. J'étais en train de me préparer. Je suis désolé.
Tu t'en rends compte? D'habitude, t'es toi qui râle parce qu'on te coupe la parole. Tu me l'as fait deux fois. Hein.
Ouais, non, mais en fait, là, le doigt a vraiment glissé. J'étais en train de me dire, je vais appuyer et.
J'ai ripé, chef.
Bah, le fil rouge sur le. Allez, voilà. Ça
On était dessus.
Non, mais je suis prêt, vas-y, pour la suite.
Donc Paper Dungeons, plus Paper Dungeons Side Quest, pour des sommes relativement modiques, puisqu'on tourne à moins de 24 euros pour la version de base.
La version de base à 24 balles?
Ouais, ouais, et non, 21 euros pour l'extension.
Non, mais enfin, même moins de 30 balles, c'est quand même pas.
Ah oui, moi je le vends 27 euros parce que j'ai besoin d'avoir une marge minimum.
Non, non, mais je trouve que moins de 30 balles pour un jeu, c'est.
Non, mais voilà, je m'attendais à beaucoup plus cher que ça. J'étais sur un truc à 40.
Et du coup, l'extension, c'est combien?
Et l'extension est encore moins chère que le jeu de base, donc voilà.
C'est une vraie extension, donc c'est bien.
C'est une vraie extension.
Chez moi.
Ben voilà, 22 euros chez toi. Donc vous pouvez le retrouver non pas sur philibert.com, mais sur la Bédérie, rue des Cordeliers. Messieurs, mesdames, nous en arrivons au bout de cette magnifique émission.
Monsieur.
Une émission qui se conclut sur l'Instagram de Thio, la galerie de Mathieu, que vous pouvez retrouver, sur les adresses de Pierrick, à savoir la Voix des Bulles ou sur le One I Play. Et puis bien sûr, Guillaume, donc, rue des Cordeliers. Jérôme, alors là, il n'est plus dans sa chambre.
Non, de temps en temps sur Actua BD.
Il officie de temps en temps. Et puis, pour ma part, c'est ici. Et uniquement ici.
Et nulle part ailleurs.
Et nulle part ailleurs. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs, dames. Au revoir.
Au revoir.
À bientôt. Ciao.